Errance médicale. Pour trouver le diagnostic, ça a été impossible dans la ville dans laquelle j'étais. J'ai dû utiliser tout ce que j'ai pu comme réseau pour essayer de trouver un médecin à 300 km au sud et s'agissant de l'imagerie médicale à 300 km au nord de ma ville.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces phénomènes et aujourd'hui un phénomène qui touche de plus en plus de Français. Vous avez une douleur, votre médecin traitant vous renvoie vers un spécialiste qui ne trouve pas, vous en consultez un deuxième sans succès, puis un troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que 1 an, voire 4 ans plus tard, vous obteniez enfin un diagnostic. Ce parcours du combattant, c'est ce qu'on appelle désormais l'errance médicale, dont le plus cruel exemple est évidemment notre rédacteur en chef. Nous sommes le 8 avril 2023 dans la salle de bain en marbre de Carrare, de Cyril Lacarrière. Le robinet en or massif de la baignoire représentant un cygne déployant ses ailes comme au Ritz goûte encore. Au sol, un corps inanimé gît dans une mare d'aftershave. Affolé par l'énorme bruit qui vient de retentir dans tout l'appartement, ce qui est normal, ça, c'est normal que ça retentisse, 300 mètres carrés, 4 mètres de hauteur sous plafond, forcément, il y a de l'écho. Un enfant arrive sur le seuil de la salle de bain et serrant fort son doudou, il demande à sa mère, « Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Il est mort, comme Mufasa dans Le Roi Lion ?» Non, Dieu soit loué, une fois qu'il aura été élitroyé à Bichat, un premier diagnostic partiel tombera. Cyril n'est pas mort, il est juste bloqué du dos. L'accident bête, docteur, je sors de mon bain, comme d'habitude, pour amuser un peu ma femme, je fais l'hélicoptère, avant d'enfiler mon peignoir, et là, paf! Petit à petit, Cyril avait retrouvé du poil de la bête, mais son dos le faisait toujours souffrir, de plus en plus même. Alors il a consulté et reconsulté en vain. Un jour, un spécialiste lui a même lancé « Dis donc, monsieur Lacarrière, ça serait pas un peu psychosomatique, votre truc ?» Cyril avait perdu 1 heure et le spécialiste 2 dents. Il a fallu 3 ans pour qu'un radiologue un peu moins bigleux que les autres annonce à Cyril qu'il avait en fait une double hernie discale. Depuis, tout va mieux, en respectant quelques conseils simples, ne plus soulever le tableau Velleda de l'Open Space et surtout, surtout, monsieur Lacarrière, plus d'hélicoptères pour amuser madame. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen.
Attends.
Je crois qu'il y a du vrai dans cette histoire.
Pas de réponse.
C'est pas ça.
J'ai levé un lièvre.
Qui s'est fait mal à la jambe il y a pas longtemps en faisant le malin à poil dans sa baignoire pour amuser sa fille?
Je me suis pas du tout fait mal.
Si, vous êtes tombé.
Vous mélangez deux histoires qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que j'ai fait quelques pitreries effectivement dans ma salle de bain, mais ce n'est pas ce jour-là que je me suis refait mal à la jambe. Ah. C'est tout bêtement dans la rue. Bienvenue à la maison. Bonjour Julien Chemoul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. N'ayez pas trop peur. C'est comme ça souvent l'après-midi. Vous êtes rhumatologue, cofondateur de Made in Tech, un salon dédié à l'innovation dans le domaine de la santé. Le prochain se tiendra les 9 et 10 mars au Parc Floral de Paris. Lors de la dernière édition, vous aviez initié une étude sur l'errance médicale qui disait que 47% des Français a déjà été confronté à ce problème. Alors, est-ce que ça va en s'aggravant? Quelles sont les raisons de cette errance? Est-ce que c'est symptomatique d'un système de santé à bout de souffle ou mal adapté? Vous allez nous expliquer tout ça. Juste le temps de vous présenter 2 journalistes qui sont aussi, à leurs heures perdues, les auxiliaires de vie de Cyril. Car il y a tant de choses à faire sur un corps qui se détraque à ce point. Manon s'occupe de changer la sonde. Oh. Quentin, lui, se dévoue pour la coloscopie annuelle.
J'y suis allé dans ce couloir.
Oui. Tout ça pour utiliser ce son que j'avais dans ma besace et dont je ne savais pas trop quoi faire. Manon, Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Bonjour Cyril.
De quel couloir je parlais?
Je ne sais pas, Cyril. Certainement le couloir de Radio France Inter.
C'est une maison ronde, il y a beaucoup de couloirs.
C'est vrai.
À vos côtés, Julien Chemoul, vous êtes rhumatologue. Je vous présente donc une quasi-confrère puisque Manon a failli être dermatologue, mais elle a de beaux restes.
C'est très bon pour la peau, la vaseline.
Très bien. Merci Manon. Et dans votre pièce jointe aujourd'hui,
c'est ce que j'ai lu. Écoutez, un livre d'un de nos collègues aujourd'hui, il y parle de ses années d'errance médicale avant qu'on lui diagnostique sa bipolarité. Un livre qui a libéré la parole autour de la maladie mentale.
Pour une fois, j'ai deviné. Face à vous, docteur, un adepte des médecines alternatives. Je rappelle que pour lui, une fracture du genou ne nécessite aucune chirurgie, simplement un bon kiné, mi-chaman qui vous souffle sur la rotule pour chasser le mal et les esprits qui habitent la rotule, évidemment.
On se souvient de cette histoire.
Vous l'avez revu? Vous avez revu ce spécialiste?
Jamais, non, jamais.
Oui, évidemment.
C'est qu'une fois.
L'errance médicale, ça vous connaît, Quentin, mais les passants que vous avez croisés, ils en pensent quoi?
Ils l'observent, pire, ils la vivent, cette errance, quand la course pour avoir un diagnostic, une avancée sur son propre cas devient un véritable chemin de croix, Mathieu. Vos avis et vos témoignages sur l'errance médicale, en France, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous verrons qu'en matière d'errance médicale, il ne faut pas toujours jeter la pierre au médecin.
Ah, Quentin!
Il continue sa blague très radiophonique.
Collez-lui moins deux, là, c'est.
Oui, vous allez démarrer le quiz avec moins 2 points.
J'ai même pas le temps de parler, vous vous rendez compte?
Effectivement. Vous êtes dissipé, Quentin.
C'est vrai.
Vous êtes un élément perturbateur dans cette classe.
À l'école aussi.
Il ne faut pas toujours jeter la pierre aux médecins, car certaines maladies rares sont quand même très difficiles à identifier. Dans le quiz, nous partirons à la découverte de ces maladies dont rien que prononcer le nom est déjà douloureux, comme par exemple la méthémoglobinémie. Je vous en prie, Quentin, restez poli. Juste avant 17h, nous serons rejoints par une humoriste qui est actuellement en pleine errance médicale, puisque Lisa Perrieux a d'abord cru avoir la syphilis, alors que c'était juste en fait une fracture de fatigue du bassin. Bon, le premier spécialiste n'était pas très bon, visiblement, chère Lisa. Après 17h, restez avec nous. On essaiera de répondre avec notre invité, l'écrivain voyageur François-Henri Désérable, à cette question. Comment se fait-il que le régime iranien tienne toujours? Donc, une deuxième heure full déconne. Mais d'abord, on reste en France aujourd'hui, cet après-midi, avec cette information. Un patient sur deux serait confronté à ce phénomène d'errance médicale. Julien Chemoul, attendre des mois, parfois des années, pour être fixé sur ce qu'on a. Est-ce que c'est devenu la norme en France?
Bonjour, merci pour l'invitation. Ouais, donc c'est devenu une réalité, on ne peut pas le nier, que de plus en plus de patients, certains patients plus que d'autres, vont mettre parfois des mois, des années avant d'accéder à un diagnostic. Et cette errance médicale va elle-même engendrer des problèmes qui vont accentuer le problème. Donc oui, factuellement, c'est compliqué aujourd'hui de voir un médecin.
Il faut résoudre l'errance médicale pour le patient, mais aussi pour le système de santé globalement.
Exactement, il y a des conséquences sur le système de santé.
Au bout de l'errance médicale, heureusement, il y a quand même un jour le diagnostic. Diagnostic qui, dans le cas de Cyril, a été un soulagement pour toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Non, il n'était pas bougon et renfrogné par nature, mais simplement parce qu'il souffrait d'une double hernie discale. Et je peux vous dire qu'avec une double hernie discale, même Christophe André serait méchant. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Ça n'a pas beaucoup évolué depuis
oui.
Ben oui, mais parce que le traitement n'est pas encore tout à fait là.
Okay,
c'est pour ça, mais au moins on sait de quoi il souffre. Ouais, racontez-nous, Cyril, vous qui l'avez vécu dans votre chair, l'errance médicale, d'où ça sort?
Imaginez, vous avez mal, votre corps lance des signaux d'alerte, mais les analyses ne donnent rien. Vous allez voir un premier médecin, puis un deuxième, puis un spécialiste. Et plus qu'un diagnostic, c'est un jugement qui tombe, c'est psychologique, ou vous écoutez trop votre corps. Bienvenue dans le monde de l'errance médicale, ou comment un patient peut se perdre dans le système de santé le plus performant du monde. Il y a encore 30 ans, dans les couloirs de la Sécu, on n'utilisait pas encore cette notion, mais on parlait de nomadisme médical. Le nomade, c'était le patient qui papillonnait d'un cabinet à l'autre, et en creux, ça voulait dire un patient qui consomme du soin et abuse de la protection sociale. Bref, si vous n'aviez pas de diagnostic, c'était que vous étiez un client capricieux.
Et c'est grâce à des associations qu'on va vraiment parler d'errance.
En février 2000, l'AFM Téléthon cofonde l'Alliance Maladies Rares, et c'est cette alliance qui publie les premières grandes enquêtes sur le sujet, notamment les enquêtes errance diagnostic. Elles permettent de concrétiser un phénomène qu'il faut parfois entre un an et demi et 4-5 ans pour trouver un diagnostic. 4 ans plus tard, l'État lance le premier plan maladies rares et pour la première fois, il admet que le système a des trous dans la raquette. Avec un paradoxe, en s'hyperspécialisant, la médecine moderne aurait découpé le patient en tranches et plus personne n'a regardé l'ensemble du patient. Alors d'où ça sort l'errance médicale? Eh bien de ce moment où la médecine a arrêté de blâmer le patient et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors ça c'est important, Julien Chemoul. Pour être clair, si on parle aujourd'hui d'errance médicale et pas de nomadisme médical comme avant, c'est au moins qu'on a changé de regard sur ce phénomène. On sait qu'il y a peut-être un problème du système de santé, pas forcément du patient capricieux.
Ouais, c'est bien expliqué, c'est bien décrit. En tout cas, le nomadisme médical existe toujours. C'est une des conséquences de l'errance médicale. Mmh. Mais effectivement, on peut voir l'errance médicale comme un problème en amont. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai que si on prend une définition à l'errance médicale aujourd'hui, l'errance médicale, ça va être une situation dans laquelle le patient va se sentir lui-même insuffisamment bien traité ou diagnostiqué sur une période prolongée pour un problème médical. Et donc, ce qui est important, c'est cette notion de subjectivité, comme vous l'avez dit, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va demander au patient comment il se sent, est-ce qu'il se sent bien traité, est-ce que sa santé va être améliorée. C'est que pendant un temps, on fait pas mal ce reproche au médecin de pouvoir dire, le patient qui allait voir son médecin et qui allait dire « Docteur, j'ai un problème, j'ai cette pathologie », le médecin qui allait traiter, qui allait lui dire en bout de course « Vous êtes guéri, j'ai votre diagnostic », et le patient qui pouvait dire « j'ai toujours ces symptômes, j'ai toujours un problème ». Et on prenait pas autant en compte aujourd'hui la subjectivité du patient. On appelle ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les études, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les recommandations de sociétés savantes, ce qu'on appelle les PROMS, ou les PREMS, c'est Patient Reported Outcomes Measure. Okay. C'est vraiment prendre en considération la subjectivité du patient.
À partir de combien de médecins ou de spécialistes on voit, on est pour vous dans l'errance médicale?
Alors, il n'y a pas de définition consensuelle de cette errance. En plus, quand on parle d'errance médicale, on voit bien qu'on touche à toute la santé. Donc, en fonction de quelle catégorie de pathologie, on peut mettre des critères qui ne sont pas du tout les mêmes. Parfois, on va être obligé de mettre des critères objectifs, si jamais on veut mesurer, quantifier ou faire une étude sur un sujet. Pour les maladies rares, par exemple, on a envie de réduire cette errance à moins d'un an. C'est un des objectifs qui a été mis dans les plans nationaux maladies rares. Où, bon, voilà, en gros, si on a 6 mois, 1 an, en fonction de la pathologie, sans diagnostic ou sans traitement adapté, on peut estimer qu'on est dans une situation d'errance médicale.
Mais pendant ce temps-là, est-ce que le patient est quand même traité ?
Alors c'est vrai qu'on peut voir l'errance médicale à différents temps. On peut voir l'errance médicale, et c'est ce qu'on voit plus dans les déserts médicaux. On peut décider que l'errance diagnostique, donc qui précède l'errance thérapeutique, elle peut survenir avant même la première consultation. Si on n'arrive même pas à accéder au premier médecin pour une consultation, on est déjà en errance. Et après, il y a certaines fois où dès la première consultation, et c'est le cas des maladies rares notamment, on va avoir plein de consultations qui vont se succéder. On n'aura toujours pas de diagnostic.
On aura toujours mal aussi.
Ouais, on aura toujours mal. Zoom Zoom Zen.
Mathieu Noël sur France Inter. Plus radin, plus malin. Comme Cyril avait besoin de consulter un rhumatologue, il a trouvé un thème d'émission qui pourrait justifier d'en inviter un en plateau. Zoom aujourd'hui sur la notion d'errance médicale avec le rhumatologue Julien Chemoul. Julien, est-ce que dans votre spécialité, vous constatez des difficultés de diagnostic qui vous conduisent à dire à vos patients parfois, à leur conseiller de demander l'avis d'un autre médecin ?
Ah oui, la rhumatologie, c'est une pathologie qui est très transdisciplinaire de toute façon. Ouais. Donc, et on voit que dans les pathologies qui vont plus amener à de l'errance médicale, il y a beaucoup de pathologies chroniques que nous on voit beaucoup, parce que c'est des pathologies, parfois on va rentrer par un symptôme, on va avoir mal quelque part, finalement le problème va se situer ailleurs. Donc oui, on a besoin souvent d'adresser à d'autres spécialistes.
Est-ce que Cyril avait raison quand il disait tout à l'heure, en s'hyperspécialisant, la médecine moderne a découpé le patient en tranches, et peut-être qu'on n'a plus de vision holistique du corps humain ?
Ouais, c'est complètement vrai.
Mais à quoi servent les généralistes ?
Non, les généralistes. Alors, c'est les généralistes, pour ne pas s'hyper spécialiser et comprendre le patient, il faut avoir du temps. Et le généraliste n'a pas le temps. Oui. Il passe en moyenne 12 minutes de consultation par patient. Et il a tellement pas le temps qu'on sait qu'un médecin généraliste, quand il va parler à un patient, il va le couper toutes les 2 minutes. Donc c'est pas lui qui a la capacité technique de pouvoir analyser tout un dossier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu d'espace où on est capable d'écouter un patient pendant une heure pour détricoter toute son histoire médicale qui est hyper compliquée.
On disait que les patients qui sont le plus touchés par cette errance médicale, c'est ceux qui cherchent un peu une maladie rare. Est-ce qu'on peut définir une maladie rare, ce que c'est ?
Oui, effectivement, donc, parmi les causes d'errance médicale, il y a les maladies rares. Et ça, on le comprend assez factuellement. C'est-à-dire que si elle est rare, on estime qu'il y a à peu près 7000 maladies rares. Donc on ne peut pas enseigner 7000 maladies à tous les médecins. Une maladie rare, c'est une pathologie. Alors là, on a mis une définition claire pour qu'il y ait un seuil. Une maladie rare, c'est une pathologie qui va toucher moins d'un patient sur 2000. Voilà. Donc, et comme il y a 7000 pathologies, ce qui fait qu'en pratique, il y a une personne sur 20 autour de nous
qui a atteint une maladie rare.
3 millions de Français qui seraient atteints de maladies rares.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, il y a un nombre de... Mais il y a beaucoup de maladies différentes. Donc pour répondre à ce problème, il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est par exemple d'induire la culture du doute. C'est-à-dire, on ne va pas apprendre à tous les médecins à connaître toutes les maladies rares, mais on va lui apprendre à douter, c'est-à-dire à repérer les premiers signes qui vont amener à ça. Et puis, on a mis en place ce qu'on appelle les plans nationaux maladies rares qui servent à structurer l'offre de soins pour mieux prendre en charge ces patients-là.
Il y a un film sorti l'an dernier qui s'appelle « Qui brille au combat », réalisé par Joséphine Japy. La réalisatrice, elle s'inspire du parcours de sa petite sœur porteuse d'un syndrome rare. Joséphine Japy explique qu'il a fallu 25 ans pour qu'un médecin mette un nom sur la maladie de sa sœur. On disait tout à l'heure entre 1 et 5 ans. Là, 25 ans, ça peut arriver malheureusement.
C'est des cas. On a des histoires comme ça, on le voit, où à la fois quand il n'y a pas d'offre de soins, ou alors quand on a une offre de soins, on arrive à accéder à un médecin. Les pathologies sont parfois tellement complexes, et il y a des pathologies qui sont plus subtiles que d'autres à diagnostiquer. Oui, c'est
Mais on en découvre encore des nouvelles.
Des nouvelles maladies.
Alors la définition d'une maladie, ça peut être plein de choses. Ça peut être une définition génétique, ça peut être une somme de symptômes. Donc on pourrait mettre des noms de maladies sur de plus en plus de choses, psychologiques ou psychosomatiques ou d'autres choses. Et plus on avance dans la compréhension du corps humain, la compréhension et la découverte de la génétique, de plus en plus en ce moment, plus on peut décider de mettre des noms sur des pathologies ou découvrir même des variantes génétiques, découvrir des variantes protomiques, de plein de choses pour pouvoir... on peut découvrir encore des maladies, on peut mettre des noms sur certaines choses.
Puis la question aussi du nombre de praticiens. D'après votre étude, 89% des Français estiment que certaines spécialités souffrent d'une pénurie de praticiens. Ce chiffre grimpe à 92% parmi ceux qui ont vécu eux-mêmes une errance médicale. naturelle. Est-ce que là, on parle d'impression, c'est un ressenti ou c'est une réalité ?
Dans ce sondage ?
Ouais.
Dans ce sondage, on demande aux gens, alors on pose la question de ceux qui ont vécu l'errance médicale, on leur demande, alors il faut voir déjà que c'est un sondage, c'est pas une étude, donc effectivement c'est que du vécu. On demande aux gens ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ressentent avoir vécu à travers ce parcours. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'accès aux soins, l'accès aux médecins, ça fait partie des choses qui les mènent assez facilement à l'errance.
Donc le désert médical, c'est vraiment le premier facteur d'errance médicale, c'est le désert médical.
Ouais, c'est ce qui empêche l'accès même aux soins. Donc en fait, de fait, même quand on a des pathologies simples à traiter, et c'est là la difficulté, la tristesse du désert médical dans l'errance médicale, c'est que des fois on a des pathologies qui pourraient se traiter très simplement, et en fait juste par manque d'accès aux soins, on ne peut pas les traiter.
Depuis que le chaman a soufflé dessus, et même si ce jour-là, Quentin avait dû le payer en cash parce que pas de chance, le TPE était en panne, le genou de Quentin va mieux, mieux que sa tête en tout cas, qui lui joue toujours des tours dans le Zoom Zoom Test. Une chose est sûre, Quentin, l'errance médicale, chacun y est un jour confronté.
Et qui de mieux que ma pomme pour vous parler de l'errance ? Parce que pour errer, moi gère dans la ville, gère dans les bois, gère dans la campagne, gère, et j'aime ça, gère moins dans les hôpitaux, par chance, je le sais, ma première rencontre est tout en doudoune et tout en valise.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Vanessa.
Vanessa, vous venez d'où, vous ?
Nantes.
Elle s'empare de notre mot du jour.
Errance médicale. Le parcours du combattant. Totalement, oui, oui, oui. Je suis sortie un jour avec un diagnostic fait par des jeunes en cours de formation. Pour trouver le diagnostic, ça a été impossible dans la ville dans laquelle j'étais. J'ai dû utiliser tout ce que j'ai pu comme réseau pour essayer de trouver un médecin à 300 km au sud et s'agissant de l'imagerie médicale, à 300 km au nord de ma ville.
Et oui, l'errance est aussi géographique et c'est aussi un coût, hein, 600 km pour se rassurer, tout le monde ne peut pas se le permettre. J'arrête ce jeune homme maintenant, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Clément.
Petite chemise, petit pull, veste barbour, ouais. Bien habillé, hein ?
Ouais, bah on essaye.
Chic ! Ouais, très chic, étudiant en commerce, il vit dans les Pays de la Loire. À son tour de découvrir le thème du jour de l'émission.
Errance médicale ? Ouais, bah là, du coup, ça moi je connais bien, avec mon petit frère qui a eu un... fibrome nasopharyngé, donc c'est une tumeur bénigne qui se met en fait, qui était justement derrière son œil.
C'était quoi ces symptômes ? Comment il a commencé ?
La vision qui baisse, des saignements de nez très 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 forts, et personne ne sait ce que c'est. Donc spécialiste en spécialiste, impossible de savoir.
Et vous avez commencé par le médecin de famille, j'imagine ?
Bah oui, justement, médecin de famille, après les urgences, une fois où il a beaucoup saigné du nez, à se balader un peu partout. Finalement, c'est en allant à Angers où ils nous ont dit il va falloir l'opérer. Et eux, ils nous ont après renvoyé sur Paris, du coup, à l'Institut Rothschild, là où il a été opéré. Donc ça a été tout un truc, ça a duré presque 2 ans, le temps de vraiment trouver ce que c'était, et là, il a été opéré juste après.
Son petit frère avait 12 ans à l'époque, et on pense forcément à la dose de stress que ça doit provoquer aussi chez les parents qui accompagnent leur enfant dans cette errance. Cette dame maintenant, retraitée, elle souffle quand je lui parle d'errance médicale.
Ben, c'est pour ça que je ne vais pas voir de médecin.
Vous n'allez plus voir de médecin ?
Non. Non, non, ras-le-bol de ce passage de l'un à l'autre, des examens qu'il faut faire avant qu'on vous ait regardé, voilà, j'étais médecin à l'occasion.
Ah oui, et Marie fut médecin en plus, alors je m'arrête là-dessus. C'est quand même un pari dangereux de ne plus soigner.
Plus dangereux que de s'emmerder pendant des jours et des jours. Moi, je peux pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vivre ça. Le médecin généraliste dit au moins c'est trop compliqué pour moi, donc allez voir un spécialiste. Enfin bon, voilà. Je trouve que là, la médecine s'est fourvoyée et que si elle est remplacée par l'IA, on comprendra pourquoi.
Ma dernière rencontre, c'est Jérôme qui arrive avec un appareil photo argentique autour du cou. De quoi on parle quand on parle ?
Je sais pas. Quand on parle d'errance médicale, la difficulté des Français à avoir accès aux soins, pour moi.
Non, ça, c'est plutôt désert médical.
Ouais, mais c'est aussi l'errance, parce que moi je vis en province.
Où ça ?
En Normandie. Et je peux vous dire que on erre de praticien en praticien pour avoir une réponse, pour avoir un rendez-vous. Et donc on erre aussi.
Je lui demande s'il a été touché, de près ou de loin, par le phénomène.
Ça m'est arrivé l'année dernière. Mon épouse a eu des symptômes qui ont généré un premier examen. Des mois pour avoir un premier rendez-vous avec un spécialiste, donc avec tout le questionnement qui existe pour moi, pour mes enfants, pour elle surtout. Psychologiquement, c'est très dur à vivre. Puis on a vraiment l'impression d'être seul, isolé, que tout le monde s'en fout. En province, si vous connaissez un médecin ou quelqu'un qui travaille dans un hôpital, tout ça, parfois vous arrivez à avoir un rendez-vous un peu plus vite. Mais en fait, il n'y a plus de priorisation parce que tout le monde est dans la merde.
Il termine par un constat, un bilan sur notre époque.
J'ai connu, comment vous dire, Moi, quand mes parents travaillaient à l'assistance publique hôpitaux de Paris, parce que je suis parisien, mais je vis en province maintenant. Et j'ai connu l'hôpital, c'était une institution, c'était quelque chose, il y avait une vraie prise en charge, une vraie considération, c'était un des piliers de la République, si j'ose dire. Aujourd'hui, les gens, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand ils ont, alors quand on est en pleine, quand on est en bonne santé, quand on est jeune, ça semble loin.
Ouais, mais on s'en rend pas compte.
On s'en rend pas compte, mais c'est quand on est dans la merde et qu'il faut la manger, la merde, que là on voit le goût que ça a, quoi.
Et à travers ces mots et à ces caches, Jérôme le dit simplement, le problème ce n'est pas l'hôpital, le problème c'est ce que la fatigue de l'hôpital produit aujourd'hui. Faute de budget, faute de personnel, de services qui ferment, des consultations trop rapides, des examens qui sont repoussés, des médecins qui n'ont plus le temps de croiser les symptômes, et à force de tirer sur la corde, ce n'est pas seulement l'hôpital qu'on abîme, c'est le patient aussi, dès la prise en charge.
Merci Quentin, merci à Jérôme pour sa franchise.
Sans parler.
Pas quelqu'un qui mâche ses mots, visiblement. Julien Chamoul, l'hôpital d'hier que nous dépeint Jérôme comme socle de la République, pilier de la République, est-ce que ça, il a raison, cette impression de beaucoup de patients, que l'hôpital ne répond plus à ses fonctions d'avant? C'est-à-dire le problème du temps, le temps de croiser les symptômes entre médecins, vous nous disiez que le temps était une problématique pour les médecins aujourd'hui.
Alors, le temps est la problématique principale, à mon sens. Je peux vous raconter comment on en est arrivé à ce sondage sur l'errance médicale. Moi, je travaille aussi dans un centre de référence. Donc, on a dit le plan national des maladies rares, c'est ce qui sert normalement à nous sortir des maladies rares en donnant du budget assez important à certains centres pour les organiser en centres de référence et en centres de compétences. Ainsi, comme ça, on va savoir, on va pouvoir traiter de manière pertinente les maladies rares, tous au même endroit, et bien les comprendre. Moi, je suis dans un centre de référence qui a été créé en 2012, je crois, et on a vu arriver des patients. On a vu que 63% de nos patients étaient en errance médicale depuis plus de 3 ans. 50% de ces patients n'avaient pas la maladie pour laquelle ils venaient, et le but du jeu n'était pas de leur dire bah, juste non, vous n'avez pas la pathologie en lien avec notre centre de référence, rentrez chez vous, mais il fallait trouver le diagnostic de ces patients et les sortir de l'errance. Et donc nous, on avait conçu un parcours de soins qui était de dire, tous ces patients-là, on va voir leur dossier en amont, on va les programmer lors d'un hôpital de jour une première fois en rajoutant quelques examens, mais rien d'extraordinaire, des scanners, IRM, prise de sang, s'il manquait des choses, et on les revoyait 3 mois après. Dans l'intervalle, lors de la première consultation, ce qu'on faisait qui était un peu novateur, c'est qu'on faisait 1 heure de consultation par patient, et avec parfois plusieurs praticiens à la fois. Et en faisant ça, on est arrivé, donc c'est une étude qui est publiée, on a réussi à sortir 96% des patients de l'errance médicale.
Ah oui, donc ça marche quand on prend le temps et qu'on réunit tout
exactement.
Le monde.
Exactement. Il faut le développer à l'échelle nationale. Alors, maintenant. Quoi.
Et ça,
tout
c'est
le sujet là.
C'est reproductible ou pas?
Alors, tout le sujet là, c'est qu'effectivement, on n'a pas possibilité de donner 1 heure de consultation par patient et par machin. Donc l'idée, c'est déjà, on peut identifier que les patients, c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien que les patients qui sont en situation d'errance médicale, ils ont un socle commun. Et exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne prend plus le temps et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de pluridisciplinarité, on ne sait plus se parler les uns avec les autres. Donc déjà, reconnaître ces patients et leur offrir du temps parce que comme ils sont en errance médicale, ils vont être en nomadisme médical et ils vont perdre du temps, perdre de l'argent, couder à la société.
Est-ce que du coup, on l'a entendu dans le micro-trottoir, mais l'IA peut aider?
Alors, l'IA est bien sûr... l'IA, on en parle beaucoup en ce moment, et c'est normal, parce que c'est révolutionnaire. Mais il faut bien comprendre que l'origine du problème n'est pas technologique, elle est d'abord humaine. Le but du jeu, on disait tout à l'heure que le temps de consultation avec un médecin généraliste est 12 minutes, le temps pour couper, de laisser discuter un patient avec son médecin, c'est toutes les 2 minutes. Le but du jeu d'abord, c'est de pouvoir recréer de l'empathie, et recréer du temps de consultation entre le patient et le médecin. Après, la technologie, c'est là où elle est révolutionnaire, c'est qu'elle est capable de nous offrir, par différents biais, plus de temps, plus de compétences du médecin. Et,
Dans la radiologie, par exemple, pardon.
Alors, radiologie, c'est un des premiers endroits où l'IA sur était l'IA, le plus pertinent.
Parce qu'elle détecte encore mieux que certains hématologues les problèmes. Elle lit mieux la
exactement,
radio.
C'est là où elle était performante en premier en médecine. C'est dans sa capacité à analyser des images.
Mais outre les nouvelles machines, les gens utilisent beaucoup de ChatGPT aussi en ce moment pour avoir des diagnostics. ChatGPT a lancé, OpenAI a lancé ChatGPT Santé. Maintenant, on peut mettre ses résultats de laboratoire, etc. et avoir un diagnostic, ils ont dit qu'ils avaient travaillé avec des médecins pour sortir ça. Est-ce que c'est aussi une réponse à l'errance médicale? Il y a beaucoup de gens qui se rassurent aussi avec ChatGPT, peut-être à outrance.
Alors, je pense que ça ne doit pas être une réponse finale, ça ne doit pas être une réponse en tant que telle, mais ça doit être un outil pour permettre à ramener plus d'humanité entre le patient et le médecin, plus de temps de consultation. Après, c'est sûr que c'est un outil tellement révolutionnaire. Si on dit aux gens, on voit que c'est aussi une des conséquences de l'errance. C'est-à-dire que si les patients, ils mettent 6 mois avant d'avoir une consultation et que dans leur poche, on leur dit, vous avez peut-être un outil technologique qui est capable de vous apporter des réponses, c'est normal de l'utiliser.
Et de vous rassurer aussi.
Mais nous rassurer. Mais il ne faut pas l'utiliser, je pense, à n'importe quel coût. Ça peut être à n'importe quel coût écologique, pas n'importe quel coût social. Il ne faut pas uniquement soigner ceux qui utilisent l'IA et en délaisser d'autres. Pas n'importe quel coût de données, parce que nos données aussi, c'est quelque chose d'important.
Oui, puis ce n'est pas un médecin de ChatGPT.
Ne l'oublions pas. France Inter.
Zoom Zoom Zen. Il est des sujets qui résonnent plus fort que d'autres. L'errance médicale, je l'ai moi-même vécue l'année dernière. Souvenez-vous, ce qui avait démarré comme un petit bobo devant être soigné par un bisou magique de ma fille, a failli se terminer par une amputation de l'index, voire une septicémie fatale. Des semaines à consulter des spécialistes de la main, des chefs de service de maladies tropicales, tout en continuant à remplir ma mission de passeur de gai savoir, car je ne peux tout simplement pas vivre sans vous divertir et sans être payé aussi. Bref, j'avais rédigé mes dernières volontés, que mes cendres soient dispersées sur la plage de Gigaro devant le restaurant La Brigantine, et qu'à leurs 18 ans, mes enfants se rendent à la banque cantonale de Zurich. Demande à voir M. Rottenmeier afin de retirer le contenu du coffre B5. Bref, le soulagement, ce n'était pas une tumeur maligne de longue, c'était juste un bon vieux panard. Ce quiz sera donc consacré aux maladies les plus rares et les plus surprenantes. Jouons au Zoom Zoom test. Tout commence.
Un panard, c'est pas compliqué à diagnostiquer.
Justement, mais j'étais tombé sur des nulos.
Mais c'était dû à quoi? Une négligence d'hygiène?
Je ne sais pas où j'avais fourré mon doigt, Quentin, mais nous avions eu une soirée juste avant. Je me suis jamais interrogé là-dessus.
Surtout qu'il est revenu deux fois. Donc bon.
Tout commence, comme souvent, ne manquons pas de l'enlever des esprits les plus critiques, aux États-Unis. Mais soyons plus précis pour moucher l'épice vinaigre, dans l'état du Kentucky. Oui, c'est la même musique, parce qu'on en a qu'une. Alors, faudrait savoir, vu qu'on bricole tout ça avec vos impôts, on essaye de faire des économies, c'est bien ou pas? Bref, bienvenue sur les rives de la Troublesome Creek, où en 2004, Cyril Lacarrière effectuait dans le cadre de sa formation au FBI un stage de survivalisme intitulé Drink Pee and Shoot Wokist. Jusqu'à ce qu'il croise un membre de la famille Fulgate, célèbre depuis le 19e siècle, pour être porteuse d'une maladie orpheline rarissime. La méthémoglobinémie, maladie de la peau bleue. La maladie de Wilson, des cheveux aussi durs qu'un cordage de raquette. Oh. Ou la reptilosclérose ou maladie de la peau de crocodile.
Mais non, vous l'avez dit en introduction.
C'est-à-dire?
Hein?
Je crois pas. Si, vous avez dit météo.
Oui, d'accord, mais il a pas dit la réponse.
Vous avez bu? Vous mélangez tout?
Croco.
Il se trouve que c'est une bonne réponse hasard, Manon Mariani. Oui. Reste où tu es.
Vous l'avez dit pour teaser le zoom zoom.
Reste où tu es et lève les mains en l'air, avatar de mes deux. Hurlera Cyril avant de nouer le dialogue. Dialogue constructif comme quand il discute avec Quentin de l'angle éditorial de son micro-trottoir. Adieu donc Bill Fulgate, porteur de cette maladie étrange qui donne la peau bleue aux membres de cette famille en raison d'un taux anormalement élevé de méthémoglobine, une maladie extrêmement rare mais non mortelle, à la différence de la Winchester de Cyril. Et pour la prochaine question, je vais demander à tous les auditeurs en plein goûter de poser leur chocobéenne et leur verre de lait et de s'éloigner du poste. Car le scanner du Gai Savoir va vous dévoiler le tératome, une tumeur connue depuis l'Antiquité mais dont l'explication et le traitement sont connus depuis peu. Une tumeur qui s'installe dans les ovaires et les testicules, surnommée tumeur monstrueuse. Car elle peut atteindre 45 cm.
Je vais m'évanouir.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup quand un mais la nature est surprenante parfois.
Moi, ça fait la moitié de mon corps. Donc c'est...
Car elle peut...
ça, c'est
car
vrai.
Car elle peut contenir des poils, des os et même des dents.
Je vais vraiment...
Ou, quand elle arrive à maturité, elle crève la peau et elle sort du testicule comme Alien de Sigourney Weaver dans le célèbre film de science-fiction que tout le monde a vu, sauf Pénélope, notre stagiaire qui n'a vu aucun film.
B, c'est B. Non,
il y a pas plusieurs réponses.
Attendez.
C'est possible qu'il y ait plusieurs réponses, Quentin.
Moi, je dis B.
Ah, vous dites B et Quentin,
B,
vous dites...
C.
C'était malheureusement la réponse A.
Ah, mais non
B. 45 cm, des poils, des os et des dents, ça me rappelle le chien d'Hélène Gâteau. Colonel, on t'embrasse. Mais imaginez un peu avoir ça dans les testicules.
Il est vivant surtout.
Oui, il est vivant, effectivement. C'est terrible d'avoir ça dans les testicules. Ça brûle terriblement. Finalement, je m'en suis pas si mal tiré avec mon panari. Quoiqu'avant de le diagnostiquer, il y a quand même eu un moment où les médecins m'ont dit que c'était peut-être le syndrome de Lutz-Lewandowski. J'ignorais qu'Alex Lutz et Robert Lewandowski, ça donnait à la pratique de la recherche médicale sur leur temps libre, mais ne nous égarons pas. Posons-nous plutôt la question. Si un jour, un médecin vous annonce que vous êtes atteint du syndrome Lutz-Lewandowski, est-ce que c'est grave, docteur? Non, trois fois rien. C'est juste que vos mains vont gonfler jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon conseil, dédié vos dernières années à la pratique du volleyball. Vous inquiétez pas, votre peau est juste en train de se transformer en écorce. Hein, ça sentira le sapin, mais c'est pas très grave. Écoutez, je vais pas vous mentir, mais vos doigts sont en train de muter en pénis. Achetez vite des moufles.
B. Croûte.
La réponse. Ah, donc pour vous, Manon, les mains vont gonfler jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous avez souvent croisé des gens dont les mains sont gonflées comme des ballons jusqu'à vous exploser à la tête.
Bah, la B, c'est l'écorce.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui. C'est l'écorce. Troublant syndrome de Lutz-Lewandowski que vous connaissez sûrement.
Ça sent le sapin, d'ailleurs.
Exactement, c'est excellent. Vous connaissez sûrement sous un autre nom ce syndrome, l'épidermodysplasie verruciforme ou maladie de l'homme-arbre qui touche seulement 200 personnes dans le monde, des petits chanceux dont les mains et les pieds se retrouvent donc couverts d'une excroissance qui ressemble à l'écorce d'un arbre. Syndrome qui frappe donc essentiellement les mains et les pieds, même si en Normandie, une légende dit que dans la forêt alençonnaise, on peut croiser un être mi-homme, mi-gnome qu'on appelle la bûche, et pas à cause de ses pieds ni de ses mains. Enfin, Quentin, presque brusquement, je pense à vous sans lien avec l'anecdote précédente, j'aimerais vous dire à quel point vous êtes dans le faux concernant Manon, qui n'est pas du tout, comme vous le répétez sans cesse dans son dos et surtout aux dirigeants de France Inter, une irrécupérable pochetronne, mais une femme atteinte d'une maladie rare.
Elle a
une maladie rare. Si elle chancelle, si elle titube, ce n'est pas toujours l'alcool. C'est simplement qu'elle est atteinte d'un trouble de la digestion qui fait qu'elle transforme le glucide en éthanol, la mettant dans un état d'ébriété continue.
Vous m'auriez dit la potomanie, j'aurais pas cru.
Non, c'est le syndrome de Cushing, c'est le SALS ou syndrome d'acidosité lactique surgénérée. Ou c'est le syndrome d'auto-brasserie.
C'est marrant si c'est ça.
C'est marrant si c'est ça. Mais sommes-nous là pour être marrants?
On est une émission de divertissement.
Pensez que c'est le SLS, d'acidosité lactique surgénérée. Mmh. Ça sonne bien scientifique. C'est une bonne réponse de Manon Mayen. Évidemment,
l'auto-brasserie.
Manon n'est pas alcoolo. Elle est atteinte du syndrome d'auto-brasserie. Et oui, sous réserve que vous partagiez les bénéfices, elle accepte que vous lanciez le business auquel vous venez de penser, Quentin, parce que je vous connais par cœur, la micro-brasserie intitulée La Marianoche. Défaite de la médecine, mais victoire de Manon, ce qui n'est pas étonnant sur un sujet scientifique.
Merci de le relever.
Un an, parfois deux, parfois trois, pour obtenir un diagnostic. On continue de zoomer sur ce phénomène que vous êtes nombreux à connaître, l'errance médicale, cet après-midi dans Zoom Zoom avec le rhumatologue et cofondateur du salon Made in Tex, Julien Chemoul. Julien, il y a des catégories de patients qui sont beaucoup plus victimes d'errance médicale que les autres?
Oui, en tout cas, c'est ce qu'on voit via notre sondage. On voit que les 50-64 ans étaient 34% à déclarer être victime d'errance médicale, ce qui peut se comprendre parce que c'est là où il y a le plus de pathologies, on est plus confronté au système de soins, donc c'est assez logique. Il y a les femmes qui sont beaucoup plus soumises à l'errance médicale. On sait maintenant bien pourquoi, au-delà du fait que pendant des années, le corps masculin était le corps de référence et le corps féminin était en fait considéré comme une variante. Il y a aussi des histoires assez intéressantes que vous connaissez peut-être, l'histoire du thalidomide, du distilbène, qui sont des médicaments qui avaient été prescrits dans les années 70 et qui ont donné lieu à des enfants nés mal formés. Donc pendant 15 ans dans les suites, on a décidé de complètement arrêter de faire des essais de phase 2 sur les femmes en âge de procréer. Et donc ce qui veut dire que pendant toute une période, cette période on a créé une grosse partie de notre pharmacopée, ces médicaments n'ont pas été testés chez les femmes en âge de procréer. Donc on a aucune idée, enfin maintenant on sait avec du recul, mais on n'avait aucune idée de comment ça allait réagir un corps soumis à des hormones différentes, à une immunité complètement différente.
L'endométriose, elle fait partie aussi de cette errance médicale, on en parle beaucoup aujourd'hui.
Ouais. Alors l'endométriose, c'est un exemple, c'est un très bon exemple de à quel point on a pu méconnaître une partie de la pathologie féminine. Aujourd'hui, on voit qu'on rattrape un petit peu ce retard. Il y a des solutions maintenant qui existent, en tout cas, on voit qu'on a largement progressé sur la compréhension de cette pathologie. On a progressé sur les outils. Il y a l'endotest, qui est un test qui permet de faire le diagnostic, qui sera présenté sur Meditex. Il y a des outils aussi...
Un test salivaire,
salivaire, voilà, pour faire le diagnostic. Il y a des outils d'accompagnement, je pense à Liv ou d'autres choses, pour mieux traiter sans médicaments, enfin en tout cas accompagner ces patientes. Il y a pas mal de...
Mais il faut quand même 7 ans en moyenne.
Alors, je ne sais pas
d'après
aujourd'hui.
Une étude c'est long, quoi.
Oui, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est encore 7 ans, c'est possible. Il y a aussi des centres de référence qui organisent. Oui, dans tous les cas, c'est long. Ça a été très, très long. Mais c'est vraiment une des pathologies où ça change actuellement. Ouais.
On parlait des femmes. On parle aussi des habitants des zones rurales qui sont touchés. Comment on explique ce chiffre-là? 35% des habitants des zones rurales sont touchés par l'errance médicale.
Ouais, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ces déserts médicaux. Je pense que c'est le fait d'accéder déjà à des praticiens pour faire des diagnostics, ainsi que les bons outils diagnostiques. Et tout est.
Il y a encore des CHR, enfin des centres hospitaliers de région. Il y a encore des médecins. Il y a encore des spécialistes.
Oui, il y en a, mais je pense qu'il y a une histoire de quantité. Je pense qu'il y a une quantité d'offres et de demandes. Entre autres.
Il y a aussi des Français sondés dans votre étude, 58% qui disent qu'ils ont plus de mal à être pris au sérieux à cause de leur âge, de leur couleur de peau ou de leur genre. Il y a encore une forme de discrimination devant le médecin ?
Alors c'est difficile parce que c'est un sondage. Donc, faut le prendre comme tel. C'est pas une étude. Donc, déjà, on sait pas, les conclusions qu'on va en tirer, c'est celles qu'on décide d'en tirer ensemble, de réfléchir. On voit qu'en plus, c'est un package de cette question qui comprend pas mal de choses. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent, peut-être que le genre, c'est aujourd'hui, moi, c'est une intuition comme ça, c'est peut-être là où on se sent le plus discriminé, où on se dit, bah tiens, pendant longtemps, on a dit que peut-être quand on était une femme, on était moins on connaissait un peu moins on connaissait peut-être un peu moins nos symptômes, on mettait certains dans certaines cases. Peut-être le cas, j'ai aucune idée de pourquoi. En tout cas, c'est un sentiment qui est important à prendre en compte, peut-être à analyser, à explorer. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il contient.
Et le risque, on en parlait tout à l'heure un peu avec l'IA, avec ChatGPT, le risque de l'autodiagnostic. Comment les médecins, quand on est un professionnel de la santé, on voit ça ? Des gens qui arrivent, j'imagine, en consultation, qui vous disent, peut-être sans avouer qu'ils ont regardé ChatGPT, mais avant c'était Doctolib, et ils arrivent avec déjà leur diagnostic. Comment on les gère ? Doctissimo. Bah. Qu'est-ce que j'ai dit, Doctolib ? Non, Doctolib, c'est très bien. Doctissimo.
Quand ils arrivent en consultation avec ces questions, c'est bien. C'est très bien, au moins ils arrivent avec des questions, ils ont déjà commencé à réfléchir à la question, donc nous on est habitués, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, hein. Oui. Maintenant des gens qui disent j'ai cherché dans ChatGPT et je pense avoir ça, pour l'instant, la plupart du temps c'est des erreurs, mais le niveau de fiabilité augmente
tout le temps.
Bientôt on va avoir des choses.
Donc il faut travailler main dans la main avec l'IA aussi pour vous.
Bien sûr, le but c'est évidemment d'arriver à utiliser ces outils pour être le plus ferme. Plus performant en tant que médecin et savoir que ses patients les utilisent, donc savoir comment réagir à ça.
Vous écoutez Inter, il est 16h46. Ouvrons donc la pièce jointe de Manon Mariani.
Un livre aujourd'hui, et pas n'importe lequel, puisqu'il a été écrit par un collègue, le présentateur vedette de la matinale de France Inter depuis 9 ans maintenant.
Je suis atteint, moi aussi, depuis des années, par l'une de ces maladies sur lesquelles nos invités s'exprimaient. Oui, je suis un malade mental.
Le 26 mars 2025, Nicolas Demorand prend la parole en direct pour parler du livre qu'il vient de sortir, Intérieur Nuit. Le journaliste révèle qu'il est atteint de troubles bipolaires depuis des années et surtout son parcours du combattant avant de pouvoir être diagnostiqué. Nicolas Demorand raconte ses années d'errance médicale, des années à consulter, à multiplier les rendez-vous, à sentir que quelque chose ne va pas, sans jamais réussir à savoir d'où ça vient. Les symptômes sont là, mais ils restent flous, mal interprétés et souvent minimisés par le corps médical. Il dit qu'il a mis plus de 10 ans avant que l'on pose un diagnostic clair sur sa bipolarité et qu'il puisse surtout être correctement soigné. Dans son récit, il parle de son mal-être quotidien. On plonge avec lui dans ses phases up, où il va aller très bien, trop bien, et ses phases down, où sortir de chez lui n'est même pas envisageable. Il raconte par exemple ses commandes frénétiques en ligne depuis son canapé, un trouble très fréquent chez les personnes atteintes de bipolarité. Il parle de ses états dépressifs, de son anxiété, de son angoisse d'aller juste à la pharmacie par peur d'être reconnu et d'être jugé. Son travail est aussi très présent. Comment présenter la première matinale de France alors qu'on est au plus mal psychologiquement ? Il dit avoir le sentiment de mentir aux auditeurs. Il rend aussi hommage plusieurs fois à sa collègue et amie Léa Salamé, l'une des seules à qui il a révélé sa maladie. C'est elle qui a donné l'idée d'écrire ce livre à Nicolas Demorand. Il a beaucoup hésité à le publié, mais les réactions lui ont prouvé que c'était un livre nécessaire, comme il l'a dit sur le plateau de C'est à vous.
Je reste aujourd'hui effaré par l'ampleur des réactions suscitées par ce livre. On ne parle pas de dizaines, de centaines, mais maintenant de milliers de réactions.
Nicolas Demorand a permis de libérer une parole, celle de ces malades mentaux qu'on entendait peu, qui étaient marginalisés ou pour qui l'errance médicale ajoutait de la souffrance à la souffrance, des millions d'hommes et de femmes pour qui poser un mot peut parfois changer une vie.
Merci Manon, et on embrasse évidemment très fort Nicolas, qui nous écoute chaque après-midi, puisqu'il faut savoir que notre émission est son émission préférée de la grille d'Inter, même s'il n'a jamais retenu son nom.
16h, zoom zoom zoom.
Zoom zoom zoom, toute l'équipe de zoom 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 t'embrasse. Julien Chemoul, c'est important quand une personnalité publique comme Nicolas Demorand s'exprime sur un sujet de santé mentale comme ça, où c'est à passer l'effervescence médiatique, finalement, ça n'a pas d'effet réel sur la prise en charge des malades.
Non, c'est indispensable, la parole, le fait de pouvoir en discuter. Alors, je ne suis pas un expert de la santé mentale, hein. Moi, je suis cofondateur de Mentex, directeur du comité scientifique. Mon rôle est d'apporter des sujets intéressants pour que les gens discutent, notamment pendant le salon ou ailleurs. Mais c'est vrai que sur ce qui est de la pathologie mentale, il y a aussi des tabous. Donc déjà, c'est de pouvoir en discuter, ça lève des tabous, ça permet à des gens de se reconnaître. C'est ça aussi, hein, la force des médias, c'est de pouvoir...
De mettre des mots aussi.
De mettre des mots, ouais. Exactement, de mettre des mots et de faire en sorte que de porter une parole auprès de plein de personnes. Et donc ça permet des fois d'arriver à un début d'autodiagnostic ou une suspicion, et cette suspicion, elle va amener à consulter, et des fois, ça va aider pas mal de monde.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
En ces temps anxiogènes, où la première puissance mondiale s'essuie les pieds sur le droit international, où un enfant capricieux de 79 balais veut annexer le Groenland parce que la Norvège lui a pas donné le Nobel, et alors que l'Europe tergiverse, un homme s'est dressé hier soir de toute sa hauteur, 1m69, pour dire non. Cet homme, c'est Pierre Courade, qui, repostant l'info sur Trump qui menace d'augmenter les droits de douane de 200% sur nos vins et nos champagnes, a commenté « Rageur, ça s'appelle du racket !» Et toc Donald, voire camembert Donald, aurait-il pu ajouter. Pierre, chaque après-midi, vous sauvez le monde et vous remettez Trump à sa place. Et parfois, vous nous résumez aussi tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono sur l'errance médicale aujourd'hui.
L'errance médicale aujourd'hui, sujet traité avec le rhumatologue Julien Chemoul qui a commandé un sondage sur ce sujet à l'occasion du salon spécialisé qu'il organise. Près d'un Français sur deux a été confronté directement ou indirectement à l'errance médicale. 30% en ont été victimes. L'errance médicale, c'est lorsqu'on nous envoie d'un spécialiste à un autre sans comprendre l'origine des symptômes que l'on développe. On a du mal à diagnostiquer la maladie et ce temps passé à comprendre d'où vient la pathologie accentue le problème, nous a expliqué notre invité. Ce sont les maladies rares qui conduisent essentiellement à l'errance médicale, si bien qu'un objectif national a été fixé à 1 an pour les diagnostiquer, alors que certains cas parlent de 25 ans d'errance. Par ailleurs, l'accès aux soins lui-même est difficile dans les déserts médicaux. Le temps que passent les généralistes, en moyenne 12 minutes par patient, est aussi dénoncé par les personnes victimes d'errance médicale. Les personnes âgées, mais aussi les femmes, sont beaucoup plus victimes d'errance médicale que d'autres patients. On progresse, mais le diagnostic de l'endométriose est un facteur majeur d'errance. Néanmoins, il peut y avoir des solutions pour en finir avec l'errance médicale. L'IA pourrait être un de ces moyens dans l'analyse d'images, par exemple. Reste qu'aucune intelligence artificielle, malheureusement, n'a encore réussi à diagnostiquer le nombre de retouches numériques utilisées par Cyril Lacarrière pour sa nouvelle photo officielle de France Inter. Le mystère reste donc entier.
Oh, c'est vache. Mais vous savez quoi ? On en reparlera tout à l'heure, Pierre. On en reparlera. On analysera cette photo dans le détail.
Il est ravi.
Il est chafouin, là.
Pour conclure cette émission, nous recevons aujourd'hui Gisèle Boudurouble, ou plutôt devrais-je dire Maître Boudurouble, puisque vous êtes avocate pénaliste.
Je vais bien. Bonjour Nagui, bonjour Leïla. Vous n'avez pas changé, je suis ravie d'être ici chez Europe 1.
Gisèle, vous êtes sur France Inter, là.
Voilà, ouais, ok. Ouais. Ah, donc c'est pour ça, je me disais, ça fait une heure que je suis là et ils n'ont toujours pas parlé des Arabes sur Europe 1. Qu'est-ce que je fais là, du coup?
Alors... Vous venez nous parler de l'errance médicale, je
c'est
crois.
C'est ça, si vous le dites, exactement. Juste, pardon, je regarde ce que j'ai plus de cachet. C'est l'errance médicale dans mon sac, exactement. Ah ouais, bon, c'est pas comme s'ils étaient utiles, ces cachets. Voilà, j'ai des... Ah, ça revient. Ah là là, la crampe. Ah non, s'inquiétez pas, j'ai ça tous les mois. C'est une petite douleur insoutenable dans le bas-ventre avant que j'ai mes règles, pendant mes règles, après mes règles, tout le temps. Et j'ai envie de mourir. J'ai dû mourir ? Vomir. Vous n'avez pas une poubelle, quelque part
Gisèle, vous êtes sûre que vous allez bien ?
Mais non. Oui, enfin, vous savez, c'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas venir travailler. Regardez, Tanguy Pastureau à côté de moi. Il a la grippe et pourtant il est là. Ah, hein, un vrai professionnel.
Lui, c'est Cyril et il n'a pas la grippe.
Aussi blanc sans raison. Le déni, mais... Je ne juge pas, je suis avocate. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, moi j'ai mis 7 ans avant... Enfin, on m'a diagnostiqué au bout de 7 ans l'endométriose et pourtant j'avais mal. Alors là, je vais vous dire... Mais rassurez-vous, aujourd'hui personne ne sait comment ça se soigne, donc enfin si on a quelques infos, il faut prendre, faut manger des plantes, faire du yoga, de l'acupuncture, de la kiné spécialisée et prendre un crédit bien sûr, parce que rien de tout ça n'est remboursé. Mais bon, c'est bien normal, on ne représente que la moitié de la population, nous les femmes, les maladies de femmes, on s'en carre le coquillage. C'est bon de rire. Mais avec un cachet, c'est encore plus délicieux. J'en ai plus, voilà, vous n'avez pas un cachet, docteur Schmoul? Non, pas de cachet, docteur Schmoul, et moi je pédale dans la chemoule, hein, j'adore. Heureusement, j'ai toujours ma bouillotte avec moi, ma bouillotte Dragon Ball Z, elle est belle, hein. C'est celle de mon fils. Ah non, j'en ai pas. Mon corps qui veut pas, c'est vrai. On doit aller à Madrid apparemment pour essayer de tomber enceinte, obligé de parler l'espagnol, de l'apprendre des studios espagnols.
C'est l'italien, ça
veut dire. Eh merde, la fancolo, putain. 2 ans de Duolingo pour rien. Là, j'ai envie de prendre un cachet. Bon, je vais boire ma bouillotte directement. Ça rassurez-vous, ce n'est pas de l'eau à l'intérieur. Vous imaginez un petit peu, moi, avocate pénaliste, boire l'eau de la bouillotte de mon fils imaginaire. Pas du tout. Vous n'avez pas un peu d'orange, docteur Schmoul, non ? C'est meilleur avec la vodka. Non, vous n'avez rien, docteur. Voyons, les médecins de France n'ont rien. Soyez maudits ! Je vous rassure, Nagui, c'est une technique pour avoir des commentaires insultants de manière à trouver des spécialistes qui puissent enfin s'occuper de moi, parce que là, les délais d'attente sont interminables. Ah, comme ma vie. Bon, bref, il faut pas. Je suis attendue sur France Inter pour parler de l'errance médicale. Tout le monde s'en fout. Désolé Nagui, j'ai pas le temps pour votre test, blind test. Dommage, je reviendrai. Hein.
C'est dommage, bonjour, on vous attend. Et surtout, bon courage. Merci Gisèle et surtout, merci Lisa Perriot. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Reprise de votre spectacle à la Nouvelle Scène à partir du 4 février, et tous les mercredis.
Ah, enfin.
Si, bien sûr que si.
Mais si elle est en pleine forme, elle galope. Merci Julien Chemoul d'être venu nous expliquer le phénomène de l'errance médicale. Et je rappelle le salon dédié à l'innovation dans le domaine de la santé, c'est Made in Tech, c'est du 9 au 10 mars prochain au Parc Floral à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Zoom Zoom Zen.